9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Avant d'entrer pleinement dans un des sujets les plus passionnants de l'histoire occidentale, celui de la conquête par les femmes des droits civiques et avant tout du droit de vote, il me paraît important de faire une mise au point liminaire. C'est pas parce que des décennies durant, vous allez voir ça, les femmes n'ont pas été autorisées à voter qu'elles n'avaient pas à la même époque le moindre pouvoir ou la moindre autorité. Nous sommes bien placés ici, nous qui revivons l'histoire chaque matin sur ces ondes, pour savoir à quel point certaines femmes, des femmes d'exception, ont fait l'histoire. C'est de droit qu'il est question dans cette longue épopée, dans ce long combat pour le vote des femmes. Et c'est de femmes ordinaires, souvent, quand je dis ordinaires, classiques, normales, anonymes, perdues dans une foule féminine. J'ouvre le nouveau numéro d'Historia, celui daté d'avril 2024, donc celui du 80e anniversaire du vote des femmes, et je scrute avec intérêt la frise chronologique établie par Bruno Fulini qui mentionne la date à laquelle les différents pays de la planète ont admis, ont légalisé le suffrage féminin. Premier constat, c'est tout de même très récent, le premier pays à laisser les femmes entrer dans l'isoloir, c'est la Nouvelle-Zélande, et c'est en 1893 seulement. Alors ensuite, on va trouver dès 1901 l'Australie, vous voyez que l'Océanie se comporte bien, si l'on peut dire. Et puis, des pays tout à fait du nord de l'Europe, Finlande, Norvège, Danemark, Islande, tout ça dans les années 1905, 1906, 1915. Et puis alors, toute une série de pays avec le lendemain de la Première Guerre mondiale, hein, l'Arménie, la Hongrie, le Canada, le Royaume-Uni, la Pologne, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Autriche, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, etc. Et l'on va voir peu à peu les femmes gagner comme ça ce droit de vote. Vous avez bien compris que la France n'est pas très bien placée dans tout ça. 1942, c'est la République dominicaine, et 1944 seulement, la même année que la Bulgarie, voilà la France. En 1914, pourtant, il avait été question de donner le droit de vote aux femmes. D'ailleurs, dès le 27 mai 1907, une loi avait rendu les Françaises électrices et éligibles au Conseil de Prud'homme, nous rappelle Bruno Fulini. Pourquoi ne pas aller jusqu'au scrutin politique ? En avril 1914, un référendum organisé par le quotidien Le Journal, réunit 505 972 oui sur cette question contre seulement 114 non. Le conflit mondial qui va éclater trois mois plus tard réduira à néant tous ces efforts. Ensuite, il faut attendre donc le lendemain de la Première Guerre mondiale. Du 8 au 20 mai 1919, la Chambre élue en 1914 examine la proposition du Saussois, mort depuis 10 ans. « Laissez venir à nous les femmes, messieurs », lance le vice-doyen de la Chambre, Louis Andrieux, qui a 79 ans. Mais ce que l'Assemblée veut bien faire, le Sénat le défait le 20 mai 1919, la proposition est adoptée à la nette majorité de 329 voix des députés contre 95, mais elle doit encore être approuvée par le Sénat, qui, après avoir différé pendant plus de 3 ans son inscription à l'ordre du jour, refuse d'en examiner les articles par 156 voix contre 134, le 21 novembre 1922. À 6 reprises sous la Troisième République, rappelle Bruno Fulini, les députés se prononceront en faveur du vote des femmes, mais les textes seront enterrés par le Sénat. Alors, en 1925, des femmes vont être élues dans les conseils municipaux. Le Parti communiste décide de présenter des candidates sur ses listes aux élections municipales de 1925, ce qu'aucun texte n'interdit explicitement. Les préfectures n'autorisent pas le dépôt de listes exclusivement féminines. En revanche, les bulletins portant à la fois des noms d'hommes et de femmes sont admis, les éventuelles élections de candidates étant ensuite cassées par décision de justice. Oui, vous voyez que l'avancée n'est quand même pas tout à fait extraordinaire. Et puis, arrive 1936. Alors après les municipales de 35, des communes pionnières, on peut citer les noms d'Aix-en-Provence, d'Auxerre, Brest, Dax, Reims, Villeurbanne et même Oran à l'époque, constituent des conseils municipaux complémentaires où vont siéger des femmes. Et après la victoire du Front populaire le 4 juin 1936, Léon Blum va mettre trois femmes dans son gouvernement. Les esprits semblent mûrs au point que le 30 juillet 1936, c'est à l'unanimité que la Chambre se prononce pour le vote des femmes. Le Sénat n'en tient pas compte, continuant de bloquer la réforme. Et ce sera donc pendant la guerre et par voie d'ordonnance que s'accomplira cette promesse faite le 23 juin 1942 par le général de Gaulle.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Souvent, à ce même micro, nous avons parlé du rôle et de la place des femmes dans les diverses périodes du Moyen-Âge. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Sautons quelques siècles, si vous le voulez bien, pour rappeler que sous l'Ancien Régime, les femmes de la plus haute société peuvent acquérir, par leur intelligence, par leur charme, par la ruse aussi à laquelle on les condamne d'une certaine façon, peuvent acquérir une certaine influence. On reste évidemment dans l'exception et dans l'élite, hein, et dans les chemins de traverse. Néanmoins, la voie est tracée. Il ne faut pas oublier quand même que les deux grands souverains du XVIIIe siècle sont des femmes. Marie-Thérèse, reine de Hongrie et épouse de l'empereur d'Autriche d'un côté, et puis Catherine de Russie de l'autre, qui certes était arrivée au pouvoir au départ en épousant le futur tsar Pierre III. Leurs correspondants Diderot, Voltaire sont favorables à l'instruction des filles, mais disons les choses, sous leurs plumes, on chercherait en vain la moindre allusion à un statut civique officiel. Alors, ce que la vieille monarchie n'a pas su faire, la Révolution va l'accomplir, en tout cas, va essayer de l'accomplir. Vous savez qu'en juillet 90, Condorcet se prononce en faveur du vote des femmes. Ça reste complètement lettre morte. Et puis, il y a en octobre 1791, et j'ai eu l'occasion de parler longuement de cela dans une pièce de théâtre que j'ai eu la chance de jouer à l'automne dernier avec Garance Bokobza, qui s'appelle « Courageuse », on a parlé de ces femmes de la Révolution qui ont essayé de faire avancer les choses, au premier rang desquelles, bien sûr, Olympe de Gouges, qui va en octobre 1791 faire paraître sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, où on dit notamment que puisque les femmes ont droit de monter à l'échafaud, elles doivent bien pouvoir monter à la tribune. Elle est assez extraordinaire, cette Olympe de Gouges. Elle n'est pas la seule. Hein. Dans la même pièce, nous parlions bien sûr de Thérouanne de Méricourt, celle en tout cas qu'on appelait ainsi et qui finira par se ranger aux côtés des Girondins, mais elle sera démolie littéralement. Elle sera outragée en public par un certain nombre de femmes d'ailleurs, de femmes qui sont des montagnardes, et elle finira folle à la Salpêtrière, la pauvre Thérouanne de Méricourt. À noter dans ce long combat pour la reconnaissance civique que beaucoup d'ennemis de l'évolution ne sont pas des hommes, mais sont aussi des femmes. Hein. C'est pas négligeable de le signaler. Évidemment, sous l'Empire, les choses ne s'arrangent pas, loin de là. Napoléon Ier se montre, alors là, vraiment, c'est une exception dans sa carrière, mais là, il se montre complètement en retard sur son temps. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants, elle est donc sa propriété comme l'arbre fruitier, celle du jardinier. Vous connaissez la formule atroce. Vos propriétés, mesdames, sont la beauté, les grâces, la séduction, vos obligations, la dépendance et la soumission, dira-t-il. Comment s'étonner du caractère misogyne du code civil après tout cela? Et pourtant, avec sa mère, Napoléon avait été à bonne école. Les premiers votes féminins de l'histoire se rencontreront en Corse, il faut le souligner, à l'époque des Génois dès le XVIe siècle, confirmés par Paoli, la Constitution Paoli en 1755. La première féministe déclarée de l'histoire de France, c'est la grand-mère du peintre Gauguin, c'est Flora Tristan, qui par ailleurs était une adepte du saint-simonisme, vous savez, et qui va faire une sorte, qui va établir un lien entre les luttes ouvrières et les luttes des femmes. Elle prêche la bonne parole à Auxerre, à Dijon, à Châlons, à Mâcon, à Lyon, avec les Canuses, mais elle n'en est pas moins en butte à l'hostilité de son temps. Elle mourra en 1844, Flora Tristan, sans avoir connu la révolution de 1848. Or, en mars 1848, on établit le suffrage universel, mais c'est un suffrage universel masculin, bien entendu, même s'il y a eu des petites tentatives. Et on trouve dans ce dossier d'Historia, sous la plume de Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, on trouve l'évocation de cette journaliste Eugénie Niboyet, qui va vouloir présenter l'idée de la candidature de George Sand aux législatives. L'une des militantes les plus actives parmi les femmes de 1848, nous disent nos auteurs, c'est la journaliste et femme de lettres Eugénie Niboyet. Donc elle était née en 1796, elle mourra en 1883. Elle décide de donner un coup d'accélérateur à la revendication suffragiste. Il faut profiter de la campagne électorale qui s'annonce pour réaliser un coup d'éclat qui attirera l'attention de l'opinion tout en plaçant les pouvoirs publics au pied du mur. Le 6 avril 48, dans le journal La Voix des Femmes, qu'elle a fondé quelques années plus tôt, Niboyet lance l'idée d'une candidature de George Sand aux élections à la Constituante. Elles doivent avoir lieu en avril 48, ces élections. Le problème, nous disent-ils un peu plus loin, c'est que l'autrice de La Mare au Diable n'a pas été consultée et qu'elle accueille plus que fraîchement l'initiative des femmes de 1848. Elle s'en désolidarise même publiquement dans une lettre ouverte adressée aux membres du gouvernement provisoire. Est-ce à dire que George Sand n'est pas véritablement féministe et ne souhaite pas voir progresser la cause de l'égalité des sexes? Il n'en est rien. Et le conflit entre Sand et les femmes de 48 reflète bien plutôt deux conceptions opposées des modalités d'émancipation féminine, deux approches différentes de la hiérarchie des nécessaires réformes. Finale de la sonate pour violon de Marguerite Canal, c'est Clara Danchin qui était au violon et Anna Jbanova au piano.
Vous écoutez Radio Classique.
Ah, ça n'est pas le Second Empire qui va arranger les choses, même si Napoléon III décore de la Légion d'honneur une première femme, c'est Angélique Duchemin qui était cantinière dans les guerres de la Révolution et qui avait vécu jusque-là Angélique Duchemin. On sait aussi que, je vous ai raconté ça, l'impératrice Eugénie va aller elle-même remettre la Légion d'honneur à la grande peintre Rosa Bonheur. Un épisode important, c'est en 1861, quand le ministre de l'Instruction public, qui s'appelle Monsieur Roulant, reçoit la lettre d'une certaine Julie Daubier. Julie Daubier n'est pas une petite jeune fille, hein, c'est déjà une institutrice mûre. Elle a l'intention, Julie Daubier, de passer le baccalauréat. Elle le veut, elle ne voit pas pourquoi elle n'y aurait pas droit. Elle s'obstine et finalement, c'est de nouveau l'impératrice Eugénie qui va entrer dans le débat. Si cette jeune fille est digne du diplôme de bachelière, de quel droit le lui refuserait-on, demande l'impératrice. Et du coup, eh bien, on va autoriser Julie Daubier à se présenter et elle va être reçue, ce qui fait qu'elle est la première française bachelière. Plus tard, quand je dis plus tard, c'est un siècle plus tard, en 1969, une première femme sera major de l'ENA, c'est Françoise Chandernagor, que je salue bien chaleureusement. Et puis, en 1972, la première polytechnicienne, Anne Chopinet, vous vous rappelez peut-être, certains d'entre vous en tout cas se rappellent cela. En 1887, Jeanne Chauvin, qui était docteur en droit, avait sollicité de la cour d'appel de Paris son inscription au barreau. Une femme avocate, non mais vous imaginez, tollé, considérable, ses chers maîtres ne voulaient pas en entendre parler. Cette fois encore, ce sont les femmes elles-mêmes qui manifesteront le plus bruyamment contre ce qu'elles considèrent comme une atteinte à la féminité. On voit pas bien en quoi, du reste, mais c'est ainsi, qu'est-ce que vous voulez. Finalement, pour que la France accepte sa première avocate, il aura fallu les interventions complémentaires de Viviani et Poincaré. Cela ne s'invente pas. Julie Daubier et Jeanne Chauvin, avant-hier, Françoise Chandernagor et Madame Chopinet, Anne Chopinet, hier, ce sont évidemment des exceptions de vibrants symboles, comme Marguerite Yourcenar, première femme sous la coupole, ou Valérie André, première femme à porter les étoiles de général. Et puis, il y aura plus tard une première femme à diriger un gouvernement, ce sera Edith Cresson, bien sûr. Mais ce sont pour l'instant tous ces cas de femmes qui occupent de grandes fonctions, et nous ne sommes pas là directement dans l'histoire des droits civiques, hein. Ce ne sont pour l'instant que de magnifiques arbres, mais qui cachent une terrible, immense, une gigantesque forêt. C'est Germaine Taillefer qui était l'auteur de cette marche, interprétée ici par l'orchestre d'harmonie du Conservatoire de Maastricht sous la direction de Seth Pipers.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Les choses se sont faites lentement, très lentement. La revendication du droit de vote pour les femmes trouve une vigueur nouvelle avec l'installation de la Troisième République. Mais on est là juste au milieu des années 1870. Voyez tout le temps qu'il a fallu. Une des grandes figures du féminisme, ce sera Hubertine Auclert, qui en 1877 va créer une association suffragiste. L'association en question s'appelle Le Droit des Femmes. On voit des photos de ces dames en longues robes et chapeaux volumineux qui trimballent des pancartes revendicatives. À l'époque, soyons honnêtes, ça fait plutôt sourire tout le monde. Ça fait sourire les hommes, ça fait enrager certaines femmes, mais ça fait avancer les choses. Partout ailleurs dans le monde, ce droit de vote féminin est en train de progresser. Dès 1869 aux États-Unis, mais pour un seul État. En 1869, c'est le Wyoming qui autorise les femmes à voter. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas cité tout à l'heure et je vous ai bien dit que le premier État souverain général qui, en tant que tel, va autoriser les femmes à entrer dans les isoloirs et à mettre un bulletin dans l'urne, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui donne le droit de vote aux femmes. Donc, vous l'avez entendu tout à l'heure, en 1893, les femmes seront éligibles en Nouvelle-Zélande seulement à partir de 1919. C'est-à-dire que dans un premier temps, pendant une trentaine d'années, elles vont avoir le droit là-bas de voter, mais pas d'être élues. Il faut bien distinguer les deux d'ailleurs. 1902 pour l'Australie, 1906 pour la Finlande, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut bien regarder les conditions posées par les différentes lois électorales. C'est pas aussi simple que ça pourrait le paraître. En vérité, pour nos vieux pays alourdis par leurs vieilles coutumes héritées du fond des âges, c'est d'Angleterre, très paradoxalement, que va souffler le vent du progrès. En 1903, un mouvement a été lancé par une certaine Emmeline Pankhurst. Elle avait 45 ans à l'époque. Elle va devenir l'égérie de celles qui veulent que les femmes puissent voter. On va les appeler les suffragettes. Elle sera relayée en France en 1909 par l'Union française pour le suffrage féminin qui comptera quand même quelques 12 000 membres. Ça n'est pas tout à fait négligeable. Des actions musclées sont menées de plus en plus parfois même des actions violentes, allant jusqu'à l'enlèvement, et qui aboutiront en 1919 en Grande-Bretagne, qui aboutiront à la reconnaissance du droit de vote des femmes. Les femmes en question doivent néanmoins, en Angleterre, avoir au moins 30 ans. Il faudra attendre 1938 pour que le vote des femmes en Angleterre, enfin en Angleterre, dans le Royaume-Uni en général, soit donné sans aucune condition. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, c'est la Première Guerre mondiale qui va tout faire basculer, qui va, disons les choses, accélérer le mouvement. Les hommes sont au front, les femmes vont se retrouver du jour au lendemain à devoir assumer toutes sortes de responsabilités. On en trouve sur les chaînes de montage dans les usines, mais on en trouve aussi dans les bureaux, comme administratrices, comme ambulancières, téléphonistes, chefs de gare, etc. Vous savez que le pape Benoît XV lui-même va souligner le rôle de toutes ces femmes dans la guerre. Elles ont fait la preuve de leur grande capacité et après la guerre, eh bien, leur vote va progresser presque partout, en Suède, en Autriche, aux Pays-Bas, aux États-Unis, c'est le 19e amendement de 1920. Vous remarquez qu'on ne parle pas beaucoup de France dans tout ça quand même, c'est assez incroyable. En France, ce sont des femmes comme Madeleine Pelletier, qui est psychiatre et dont on parle. Il y a un encadré complet dans le numéro d'Historia, là, dans le dossier sur Madeleine Pelletier, personnage assez extraordinaire, mais qui fait figure d'exception. Il faut être juste. Entre les deux guerres, les députés vont donc voter 6 fois en faveur du vote des femmes, mais les sénateurs, je vous l'ai dit, y font obstacle. Il y a 2 types d'opposition. D'ailleurs, l'opposition conservatrice classique du côté de la droite, mais à gauche, un autre type d'opposition plus inattendu. On a peur que les femmes n'aient un vote trop conservateur et trop clérical. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnalités de gauche vont s'opposer au vote des femmes. Bref, du fait de ce retard juridique, on en arrive au paradoxe d'avoir en 1936 3 femmes qui sont sous-secrétaires d'État dans le gouvernement de Front Populaire alors qu'elles ne sont ni élues ni même électrices. Et il faut donc attendre la Seconde Guerre mondiale. Il faut donc attendre le général de Gaulle et 1942 pour que les choses évoluent vraiment.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Dès le 23 juin 1942, le général de Gaulle déclare que « Une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous éliront l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. » Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, dans ce dossier d'Historia, nous disent « Le vote des femmes fait partie du programme de modernisation de la société française voulu par De Gaulle. La question du suffrage féminin n'est pas mentionnée dans le programme du Conseil national de résistance en mars 44, mais le 18 du même mois, dans un discours qu'il prononce devant l'Assemblée consultative provisoire, De Gaulle déclare que, je cite, « Le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous. » Il réitère comme ça le souhait exprimé donc en juin 42. À partir de la fin du mois de janvier 44, l'Assemblée consultative d'Alger, qui représente tous les mouvements et les partis de la résistance engagés dans la guerre aux côtés des alliés, entame les discussions autour de la future organisation des pouvoirs publics en France, telle qu'elle sera mise en place après la libération du territoire métropolitain. Et c'est dans ce cadre que, fin mars 44, la question du vote des femmes commence à être discutée par les députés réunis à Alger. Lors de la séance du 24 mars 1944, ajoute Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, malgré la volonté gaullienne, seule une demi-mesure est sur le point de l'emporter. Ce jour-là, le projet d'ordonnance censé organiser les pouvoirs publics dans la France d'après-guerre stipule simplement que, je cite, « les femmes sont éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Excite le droit de vote des femmes. Seule a été conservée une éligibilité féminine qui ne fait peur à personne. Les délégués hostiles aux droits des femmes sont à juste titre persuadés qu'aucun parti politique ne proposera de candidature féminine lors des scrutins électoraux. Il y a bien loin de la coupe aux lèvres et de l'éligibilité à l'élection proprement dite. Ce jour-là, c'est Fernand Grenier qui va sauver in extremis le suffrage féminin, nous disent nos auteurs, jetant toutes ses forces dans la bataille et réussissant à convaincre une majorité de délégués, il parvient à faire adopter par ses collègues un amendement ainsi rédigé « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Oh, on a envie de dire « Ouf !» Au soir du 24 mars 1944, l'amendement Grenier est ratifié par l'Assemblée consultative d'Alger par 51 voix contre 16. Il s'en est fallu d'un cheveu que les Françaises ne soient pas électrices.
Vous écoutez Radio Classique.